Souvenirs de famille. André Chanson, évoqué par sa fille Frédérique Hébrard.
Papa disait « Je suis de ce pays autant qu'on peut l'être. J'appartiens à cette terre par les cimetières et les sillons. »
D'ascendance protestante, André Chanson grandit dans ses Cévennes natales. Dans l'entre-deux-guerres, André Chanson allait devenir une figure notable parmi les intellectuels engagés. Il milita dans les années 30 aux côtés des partisans du Front populaire, fondant en 1935 avec Jean Guéhenno et André Violis l'hebdomadaire Vendredi. Après son baptême du feu auprès des Républicains pendant la guerre d'Espagne, André Chanson devait être mobilisé lorsqu'éclata la Seconde Guerre mondiale comme capitaine dans les chasseurs alpins. Rappelé pour diriger l'évacuation des chefs-d'œuvre du musée du Louvre avant l'arrivée des troupes allemandes à Paris, il fut résistant pendant l'occupation en liaison avec les maquis du Lot, puis prit part au sein de la brigade Alsace-Lorraine avec André Malraux au combat mené pour la libération du territoire. Ce chartiste émérite fut aussi un remarquable romancier, à qui l'on doit une œuvre empreinte de son amour pour les Cévennes et inspirée pour une grande partie pour son attachement aux souvenirs et aux malheurs de ses ancêtres huguenots. Citons entre autres « Roux le bandit »,« Les hommes de la route »,« Le crime des justes »,« La galère »,« Quatre mois »,« La superbe »,« La tour de Constance ». André Chanson fut élu à l'Académie française le 17 mai 1956 par 18 voix, celle entre autres de Jules Romain, André Mauroy, et fut reçu sous la coupole le 23 mai 1957. André Chanson nous a quittés le 9 novembre 1983. Frédérique Hébrard, sa fille, commence cette évocation en lisant un extrait des Châtaigniers du désert, roman qu'elle a écrit et fait réaliser dernièrement pour la télévision.
Le paysage est là, on le devine par saccades, mais la journée neuve hésite encore. Va-t-il faire beau ? Brusquement, une écharpe de brume s'effiloche devant moi, comme un fantôme qui s'évanouit. J'avance dans les nuages comme les oiseaux du ciel. Je ralentis. Il faut attendre la volonté de la nature comme il faut au théâtre, attendre les trois coups pour que le rideau se lève. Et le rideau se lève enfin, et le monde réapparaît. Indiscutablement beau, le tombeau de l'écrivain est là, devant moi, à la proue de la montagne, dominant un apic vertigineux, faisant face à un paysage si vaste qu'il semble un grand livre ouvert, le livre où est écrite l'histoire, notre histoire. Le tombeau porte des noms, des dates, et comme une signature, ce mot-clé des Cévennes, résister. Deux noms sur le tombeau, mon père, ma mère, et deux dates, 1900-1983. Le brouillard est parti, oublié. Le brouillard n'a jamais existé. Pas plus qu'un linge blanc qu'on fait tomber pour dévoiler une plaque, une statue. Et ce qui vient d'être dévoilé devant mes yeux, c'est mon pays. Je tenais à commencer cette émission par la lecture de ce bref passage de mon roman « Les châtaigniers du désert » parce que le tombeau de l'écrivain, c'est le tombeau de mes parents. Et je me souviens d'un jour où nous avions tellement ri quand papa nous avait dit « Ah ben ça y est, c'est arrangé, on va pouvoir être enterré sur la Luzette. » La Luzette, c'est face à l'Égoile. Ah bon, on dit, c'est très gai comme nouvelle. Oui, mais vous verrez, on ne peut pas être triste là. Et ça vous fera un joli but de promenade. On avait beaucoup ri. Et puis, on est allé voir. Il n'y avait pas encore le tombeau. Il y avait une espérance de tombeau. Et un jour, mon père me dit, est-ce que tu ne seras pas trop triste quand je serai mort pour lire sur mon tombeau la prière de notre famille ? Alors là aussi, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, oh, ben, je serai certainement très gaie ce jour-là. Et il me dit, mais ça me ferait vraiment plaisir. Elle est très belle, la prière de notre famille. C'est prière de Moïse, homme de Dieu. Le chiffre de nos jours est de 70 et pour les plus robustes de 80. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment. Puis nous nous envolons. Pour mes parents, le chiffre de leur jour a été de 83. C'est l'âge que j'ai maintenant. Ça va bien. Et c'est vrai que l'endroit où ils reposent, alors il faut quand même que je précise pour celui qui ne sait pas ce qu'est la loi française, nous, descendants des Camisards, avec des ancêtres galériens pour la foi sur la Superbe et des grands-mères enfermées à la tour de Constance, eh bien, nous avons le droit d'être enterrés dans nos terres comme nous étions obligés de le faire au moment où nous n'avions pas droit à la terre chrétienne. Alors, on voit beaucoup dans notre montagne des cyprès, et ça veut dire ici tombe de descendants des Camisards. Alors là, il n'y a pas de cyprès parce qu'on est quand même très très haut, mais je trouve absolument admirable que tous deux soient tournés vers l'Orient, et surtout vous ne mettez pas d'eau au paysage, disait ma mère. Alors ils sont comme dans un lit à deux places, et ils regardent vers la mer, et je dis toujours, après cette mer intérieure qui est la nôtre, il y a Rome, et après Rome, il y a Jérusalem, et après Jérusalem, il y a la Mecque. Et je porte sur moi l'étoile de David, la croix des chrétiens, et le Coran des musulmans. Et ça, pas depuis la semaine dernière, non, il doit y avoir 45 ans à peu près que je porte ce bijou qui est une profession de foi. Et alors, je suis toujours bouleversée quand j'arrive dans ce lieu qui est un lieu de paix, je dirais presque de bonheur. Et quand nous avons tourné l'adaptation des Châtaigniers du désert avec Caroline Huppert, ma première femme réalisateur, Caroline était absolument effondrée ce jour-là parce qu'il ne pleuvait pas, mais il avait fait beau, beau, beau tous les jours précédents. On avait eu des paysages merveilleux. Je l'avais amenée voir cet endroit du tombeau de l'écrivain et il faisait beau, on voyait jusqu'à la Mecque. Et puis tout d'un coup, ce jour-là, il ne fait pas beau. Alors c'est le désespoir. Mais je me souvenais de photos qui avaient été prises pendant des années, chaque fois que les fidèles de mon père se réunissent le premier samedi du mois d'août pour le célébrer. Je me souvenais que les photos étaient plus belles quand il faisait mauvais. Pas évidemment s'il y avait eu la tornade. Mais là, c'était comme une promesse. Je lui disais, vous verrez. Elle me disait, oh non, c'est pas possible, c'est horrible, c'est affreux. Elle était très triste, très malheureuse. Et moi aussi. Et puis tout d'un coup, quand on a vu à l'écran ce que donnait, c'était pas la pluie, c'était une bruine des origines de la terre. C'est magnifique et ça donne une gravité extraordinaire au paysage. Alors évidemment, c'est très émouvant de voir le tombeau de mes parents sur lequel est écrit « Résister ». Qui a été pour moi un mot essentiel dans mon enfance, mon éducation et encore aujourd'hui. Je crois que j'hérite tous les jours. Et en même temps, quand on perd ses parents, on perd tout. Et on ne se rend pas compte qu'ils vont revenir vous apporter tout ce qu'on n'a peut-être pas su recevoir de leur vivant. J'ai compris une chose extraordinaire sur le tombeau de mes parents, mais peut-être des années après. J'ai compris que j'étais devenue la mémoire et que non seulement j'étais devenue la mémoire, mais qu'il fallait que cette mémoire existe pour que je la transmette à mes enfants, à mes petits-enfants, de la part de mon père, de ma mère et de tous ceux qui les avaient précédés. Et il y a une chose qui me remplit de joie l'hiver quand je sais que le tombeau est couvert de neige, qu'il n'y a pas d'accès possible, puisque même une fois au mois de mai, j'ai dit aux gendarmes, je monte sur le tombeau de mes parents, et ils m'ont dit, tu ne pourras pas, hein, parce qu'il y a des fangères, et c'est pas possible, on ne peut pas circuler. C'est extraordinaire, ce qui fait que quand on ne peut pas accéder au tombeau d'André Chanson, tous les personnages de sa littérature sont autour de lui, puisqu'ils sont de la même montagne. Et je pense aussi que les mouflons qu'on a réintroduits sur la Luzette et qui sont des bêtes merveilleuses, très timides, très sauvages, qu'on a du mal même à apercevoir, mais qui sont belles, fondamentales, les mouflons doivent venir leur tenir compagnie. Il y a aussi des chevreuils, des chats sauvages. On aime beaucoup les chats dans la famille, mes parents les aimaient beaucoup. On a des renards, peut-être des loups, des ours, non, jusqu'ici il n'y en a pas. Mais il y a toute une petite ou grande faune qui vient leur tenir compagnie et qui n'est pas effarouchée par la présence invisible mais extrêmement présente des personnages de la littérature d'André Chanson. On dit c'est le tombeau de l'écrivain, c'est le tombeau d'André Chanson. Mais pour nous, sa famille, c'est le tombeau d'André et de Lélette. André, c'est lui, Lélette, c'était maman. Et ils ont été heureux ensemble tout au long de leur vie. Maman est partie la première contre toute attente. Et il m'a dit, mais comment vais-je pouvoir vivre sans cette femme adorable ? Et il n'a pas vécu beaucoup. Il a vécu exactement 5 mois, jour pour jour, après maman. Et je suis contente qu'ils soient tous les deux là-haut. Et c'est vrai, il avait raison. Je ne suis pas triste quand je vais sur leur tombeau. Je ne peux pas être triste. Ils sont accomplis dans un paysage qui non seulement les accepte, mais les voulait. Et puis je pense à tous ceux qui les ont précédés. Papa disait « Je suis de ce pays autant qu'on peut l'être. J'appartiens à cette terre par les cimetières et les sillons. » Ben moi aussi. Et cet endroit est magnifique. En plus, c'est en rupture de pente. Alors j'ai su que c'était en rupture de pente parce que j'ai rencontré un monsieur en Jordanie, à Petra. On était montés sur la montagne d'où on aperçoit la terre promise. C'était absolument grisant. Et alors, il me dit, parlez-moi du tombeau d'André Chanson. Et je lui dis, écoutez, c'est comme là, voyez, on est en surplomb. Et il me dit, oui, ils sont en rupture de pente. Il faut faire très attention à l'érosion. Alors, on veille à ce que... Il y a toujours des fleurs, pas l'hiver. Il y a des fleurs de gel l'hiver. Mais il y a toujours des fleurs, des bruyères, beaucoup... Et quand on a tourné le film, Jean-Claude Drouot, qui joue un berger, je lui ai dit un jour, tu sais, à toi tout seul, tu es l'égual. La veille du tournage, Il arrive avec un bouquet de bruyère et il me dit, tu vois, je suis montée sur le tombeau de tes parents hier parce que je voulais cueillir cette bruyère qui joue demain et je voulais qu'elle vienne de chez eux. Quel cadeau! Aussi multiple, aussi riche de qualités différentes que mon père, et souvent, par nécessité, un père absent. Moi, je crois que je suis reconnaissante à l'occupation qui m'a donné mon père dans le secret des châteaux où nous, je dis nous, je suis très prétentieuse, moi j'étais une petite fille, une petite jeune fille, mais où mes parents avaient en charge la garde des trésors du Louvre, parce que j'ai quand même, vers 14 ans, dormi avec la Joconde au cours d'un voyage. J'ai fréquenté, non pas personnellement, la chatte Basté et le scribe accroupi, mais je savais qu'ils étaient dans des caisses en bois blanc qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir parce qu'il y avait un petit constat hygrométrique qui disait que tout allait bien. C'est très beau aussi de célébrer l'invisible à travers une caisse en bois blanc en sachant que c'est un des trésors de l'humanité qui est là et qu'on ne voit pas. Et donc, nous étions dans des lieux, c'est pour ça que j'ai écrit la chambre de Goethe qui commence à Montauban et qui se poursuit au château de la Traîne dans les refuges des chefs-d'œuvre. Et là, j'ai eu papa pour moi. J'ai eu papa pour moi parce qu'il n'y avait pas de télévision. La radio, c'était simplement ici, Londres, avec le cher Maurice Schumann qui est devenu un grand ami par la suite. Et à part ça, j'apprenais le grec, le latin par téléphone. Non, le latin, c'était avec un vieux monsieur qui était un ancien directeur d'école religieuse qui n'avait jamais eu de fille comme élève et qui n'avait accepté qu'à une condition, c'est que nous ne parlerions que latin. Et pendant le temps de mon travail avec ce monsieur, je n'ai parlé que latin. J'ai bien tout perdu, mais c'est un souvenir merveilleux. Et puis, je faisais de l'anglais avec le chef du maquis qui me tapait dessus quand je travaillais pas bien. Mais j'avais papa et papa m'a fait une dot d'alexandrins, de quatrains, de sonnets. Je pourrais vous réciter des vers jusqu'à demain matin sans problème. Et c'est absolument merveilleux parce que ça me reste. Ça fait partie de l'héritage tel que je le conçois, c'est-à-dire tout ce qu'on peut emporter les mains vides, mais ni le cœur, ni la tête. Et là, ce qui est formidable, c'est que je n'ai rien oublié. Et mon père et ma mère, qui étaient extrêmement sévères, qui m'ont élevée comme une infante, j'étais surveillée, ils me laissaient lire n'importe quoi. Il n'y avait pas d'enfer du moment que c'était beau. Et je me souviens, je devais avoir 13 ou 14 ans, quand mon père me récite « La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. » Et moi, je récitais ça et j'étais ravie. Et il m'a mis tout Balzac entre les mains à même pas 12 ans. Et pour un de ses anniversaires, je lui avais joué une scène de La Cousine Bette quand le bonhomme Crevel se fait attendrir par la baronne Hulot et après le dit à Valérie Marneff, cette peste. Et il lui dit cette pauvre femme, etc. Et j'avais tout appris par cœur pour mon père. Et il y avait cette réplique merveilleuse de Valérie Marneff qui disait, Crevel disait, mais ma louloute, elle se redressa et lui dit, il n'y a plus de louloute, monsieur. Alors, vous imaginez le bonheur de vivre avec un homme qui ne cesse de réciter des vers et qui voit qu'il y a une petite créature à côté de lui qui non seulement les écoute, mais les apprend et les lui redit. Lorsqu'au déclin du jour, assis sur la bruyère avec un vieil ami, tu bois en liberté, dis-moi d'aussi grand cœur lèverais-tu ton verre si tu n'avais senti le prix de la gaieté. C'est peut-être un petit peu faux dans la fin, mais l'essentiel y est. Et puis, la mort du loup, je lui dis, papa, je t'en supplie, pas la mort du loup, je suis trop triste à la fin. Et puis, Moïse, Seigneur, vous m'avez fait puissante et solitaire, laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. Alors je pleurais beaucoup. Lorsque le pélican lassé d'un long voyage, mais là il avait commencé très jeune, j'étais petite et je sanglotais à la sanglante mamelle. Mais quel cadeau il m'a fait. Et comme Louis Vel, mon mari, est très fort aussi en souvenir du conservatoire et même d'avant, nous faisons encore des matchs tous les deux et nous nous récitons des poèmes. C'est très beau. L'autre jour, j'ai téléphoné à la fille d'une amie très chère qui n'est plus là et sa fille me dit « Je viens de prendre ma retraite ». Et tout d'un coup, on s'est mise à réciter Phèdre. Elle me dit « Ne crois pas que je sais tout Racine par cœur, mais Phèdre, oui. » Et c'est tellement beau. « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée. » Eh bien ça, c'est papa. Il y avait quand même chez papa quelque chose que j'aimais pas beaucoup. Il était chasseur. Et il avait essayé de m'emmener à la chasse avec lui. Et ça marchait pas du tout avec moi. Parce que j'ai pleuré au premier lapin, sangloté au premier lièvre. Et de temps en temps, je poussais son fusil pour que ça parte en l'air. Alors il a cessé de m'emmener à la chasse. Mais il m'emmenait en promenade. Et je me souviens des ascensions de l'Aigoual. Du dos de notre maison, les Bressous, Louis dit « Les orteils de l'Aigoual sont dans la bergerie ». Et c'est vrai. Et cette maison des Bressous qui lui était si chère et qui est si chère à ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, c'est quand même merveilleux. Les Bressous, ça veut dire les berceaux. « Il y a très cinq ans que sus la outure que notre oustal fugué bâti, mais des liens ni des peires durs. » Alphonse Denval Aloubati. Il y a 300 ans que sur la hauteur notre maison a été construite, faite de bois et de pierres dures, au fond d'un val aimé des loups. Parce qu'il était aussi poète provençal. Il avait une passion pour Mistral et lui, le protestant homme de gauche, avait une passion pour Mistral royaliste et très très catholique. Mais la poésie, c'est comme me permettre de lire « Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je respire à longs traits les senteurs confondues de l'huile, de coco, du musc et du goudron. » Plus sensuel que ça, tu meurs, mais ça... J'avais droit parce que c'était chef-d'œuvre et donc bon à consommer. Et quand j'ai écrit le harem qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française, il n'était plus là. Et les deux petites jeunes filles qui ont la scarlatine au château de Salavès-Catusso et qu'on met en quarantaine et qui sont servies par oncle Baba et le butler... parce qu'eux ont eu aussi la scarlatine et qu'ils ne sont pas passibles de l'avoir de nouveau, eh bien, tous les soirs, ils amènent aux jeunes filles avec leur dîner un mot nouveau pour, dit oncle Baba, vous faire une dot de mots. Eh bien, ça, c'est l'héritage de papa. J'ai été fille unique. Je devais être un garçon, c'est pour ça que je m'appelle Frédéric, à cause de Frédéric Mistral. J'ai été une fille et ils ont été très heureux. Ils ont beaucoup aimé Louis, bien que catholique. Ça me fait rire. Et ils ont été très heureux d'avoir des petits-enfants, Catherine, dont ils se sont énormément occupés, et puis Nicolas et François. Et la dernière fois que papa s'est rendu à l'Académie française, il était très fatigué, très diminué. Nicolas et François sont venus avec lui et l'ont aidé. Et il était très fier de dire « voilà mes petits-enfants ». Et je crois qu'il serait très fier d'eux. Catherine est en train d'écrire son quatrième roman. Elle vient de faire un voyage époustouflant aux États-Unis puisque Les Sœurs Chocolat, son dernier roman, a été choisi par les 118 ou 119 maisons de l'Alliance française aux USA pour être le livre de l'année. Nicolas dirige Koba Film, qui est une maison de production et de diffusion. Et Koba Film a fait le DVD des Châtaigniers du désert et il en a fait beaucoup d'autres. Il a commencé par nos œuvres à Louis et moi. Et ça s'appelait Mémoire de la télévision. Puis après, il a fait énormément de choses. Et il y a du reste plein d'académiciens qui ont des DVD chez lui. Le dernier sorti, c'est La lumière des justes de Troya. Bien sûr, au plaisir de Dieu. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis François, lui, est scénariste. Il a collaboré à toutes nos écritures. Je prends un temps parce que dans La Demoiselle d'Avignon, nos enfants ont collaboré, mais ils étaient petits. Et alors, ils ont joué et ils n'étaient pas collaborateurs comme François l'a été par la suite avec Le mari de l'ambassadeur, où non seulement il a écrit le scénario avec nous, mais il a réalisé. Et puis après, Le Château des Oliviers, il a collaboré. Le Grand Battre, il a collaboré. Et puis Les Châtaigniers du désert également. Mais il fait une carrière aux États-Unis, à L.A., comme on dit quand on est chic. Et il vient d'avoir un gros succès avec un épisode de Bones. Il est premier Français à avoir réalisé dans cette série fabuleuse qui se tourne là-bas. Et puis, il tourne aussi en France pour toutes les chaînes. Il se partage entre les USA et la France. Et il vient tous les étés à la maison des Bressous pour vérifier que les orteils de l'Égoual sont toujours dans la bergerie.